Et bonjour, bienvenue sur France Bleu Pays Basque pour votre 100% rugby, l'émission rugby top 14, Pro D2 autour de l'aviron bayonnais et du Biarritz Olympique. L'aviron qui a déçu dimanche soir pour cette belle fête de l'Ovalie à Noëta, une fête qui s'est rapidement transformée en cauchemar puisque les ciels et blancs ne sont pas passés loin d'enregistrer leur plus grosse défaite de la saison après le 37-0 encaissé à Castres. Et bien Bayonne a perdu 46-10 face au RCT devant 40 000 spectateurs. Aujourd'hui, l'aviron n'a plus que 5 points d'avance sur Montpellier, 13e et barragiste, et se retrouve 10e du championnat. L'espoir de disputer les phases finales s'est certainement envolé du côté de Saint-Sébastien. Et puis en Pro D2, Biarritz a ramené un bon bonus défensif de Béziers. Les Biterrois, co-leaders du championnat, ont battu le BO 35-31. Il y a du mieux chez ce BO-là. Restera concrétisé peut-être le week-end prochain parce que pour l'instant, eh bien, les Biarros restent accrochés à la 14e place du championnat. 4 places devant l'avant-dernier, 4 points devant l'avant-dernier Montauban.
18h-19h, 100% rugby sur France Bleu Pays Basque avec Julien Dejon.
Et pour notre 100% rugby ce soir, nos consultants Benoît Caballero, bonsoir.
Bonsoir.
Et Yann Blanchard, pas là. Pas là, Yann. Fracture du moral, certainement, pour Yann. On espère
qu'il arrivera. Il change de point.
Fracture du moral, on espère qu'il arrivera à sortir du lit pour demain. Mais en tout cas, la gueule de bois est visiblement un petit peu violente. Donc, c'est Nathan Cardet qui nous fait le plaisir de remplacer Yann ce soir. Salut, Nathan.
Salut.
Messieurs, je parlais de gueule de bois. C'est un petit peu cette sensation qu'ont les supporters bayonnais après la gifle prise à Noëta dimanche soir. Une défaite cinglante dans un stade qui ne veut pas nous réussir. Je rappelle le score, 46-10. Deuxième pire défaite de la saison. Après, je le disais également, le 37-0 enregistré à Castres il y a quelques semaines. L'aviron bayonnais méconnaissable qui se sont fait rouler dessus. Ce n'est pas compliqué. Les ciels et blancs étaient pris sur tous les secteurs de jeu, sur l'envie, sur la combativité. Benoît, peut-être un premier commentaire général sur ce match, cette débâcle quelque part aussi.
Ça fait mal parce que la fête avait tout pour être belle. Il y avait de l'ambiance dans les rues, il y avait de l'ambiance au stade. C'était une très bonne organisation. Et après, le sport fait qu'il y a un gagnant, un perdant. Mais là, c'est une lourde défaite, à mon avis, pour l'aviron. Et j'espère qu'ils vont vite s'en remettre.
Oui, parce qu'elle peut faire mal à la tête, celle-là.
Elle va faire mal à la tête et elle n'arrive pas au bon moment, quoi.
Tu étais au match, justement, ouais, tu étais à Noëta, tu allais faire un tour. Donc, ouais, c'était tout pour faire une belle fête.
Ah oui, c'était, parce que, le match était à 21h, donc on commençait à manger, à boire quelques coups à midi. Après, autour du stade, ce qu'il n'y avait pas eu l'année dernière, parce qu'il y avait un concert, il y avait tout pour faire la fête, tout pour s'amuser. Et on l'a tous fait, je pense, mais c'est vrai que
justement, peut-être avant.
Ouais.
Tout le monde l'a trop fait avant, justement, peut-être.
Oh, les joueurs, j'espère pas, en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage.
Double gueule de bois, du coup.
Voilà.
Nathan, t'y allais, toi?
Non, j'y suis pas allé, mais de tous les échos que j'avais, oui, ça fonctionnait autour, mais toute la magie s'est arrêtée au coup de renvoi, finalement, parce que sur le terrain, ça a pas suivi. L'ambiance dans le stade, je suis moins convaincu pendant le match de l'ambiance en général, mais sur le contenu, Bayonne n'a pas existé, s'est fait marcher dessus par une équipe qui était en pleine possession de ses moyens, et qui avait ses stars, ses joueurs au niveau, on en parlera après, qui était énorme, mais ça a été la différence entre une équipe qui va sûrement ou a tout le potentiel pour être dans le top 6 et une équipe qui ne l'a pas encore, je pense.
Est-ce qu'on peut parler de fiasco ou c'est un petit peu trop violent comme mot?
Oh, fiasco, c'est un peu dur, mais... Mais déjà la semaine dernière contre La Rochelle, on sentait que ça pouvait basculer de côté de La Rochelle aussi. Là, on parle du match contre Toulon, mais Toulon qui est une équipe comme on vient de le dire, qui est en train de remonter à fond. Il y a les internationaux qui sont revenus, il y a Baptiste Rennes qui est revenu. Enfin, il y a tous ces mecs-là. Bien sûr que Toulon est une équipe au-dessus de Bayonne. Bon, Bayonne, s'est fait rouler dessus complètement, on n'a pas existé et on n'a même pas vu de collectif alors que d'habitude la force c'était le collectif de Bayonne, ce qui a été la force contre La Rochelle ou d'autres équipes à Jean Daugey, c'était le collectif.
Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien, tu vois bien, tu te fais bouffer sur les rucks, tu te fais bouffer un petit peu partout, le soutien qui tarde à arriver à chaque fois, c'était vraiment un petit peu le match galère, un aviron méconnaissable finalement par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude.
Finalement assez proche de l'aviron qu'on avait vu l'année dernière à Noëta, le match c'est pas le même, mais pas loin finalement. Peut-être face à une équipe plus forte.
L'année dernière, t'avais quand même essayé de produire un peu de jeu.
C'était pas le même adversaire non plus, mais.
Oui, mais c'est pas pour qu'il y avait. Là, Toulon, ils étaient les rois du monde, quoi.
Des plots, quoi.
Oui, voilà. Bon, des plots, peut-être pas des plots. Mais...
ça paraît c'est facile
de respecter les joueurs, mais.
Oui, ça fait quand même des beaux bébés, des beaux plots, quand même.
Non, mais je pense qu'ils sont passés à côté et que voilà.
Puis c'est vrai que là, on a senti une équipe de Toulon qui, elle, a sorti, s'est mis face à ses responsabilités aussi. Elle qui vise un top 6 depuis quelques années, ça fait longtemps qu'elle est privée aussi de ses phases finales, cette équipe du RCT. Eux, ils ont pris les choses en main aussi directement. Alors, ils sont peut-être plus habitués aussi à ces matchs à enjeu et à ces matchs avec autant de supporters. On sait que le week-end prochain, Biarritz va jouer au Vélodrome, par exemple. Pareil,
ça
va
être encore au Vélodrome, Biarritz.
Non, pas Biarritz. Biarritz,
Toulon.
Bientôt.
Le RCT, pardon. Le RCT.
Je vais louper des épisodes.
Oui, non, mais je suis déjà sur l'après. Non, sur le RCT, j'ai toujours un temps d'avance. Sur le RCT qui va aller jouer au Vélodrome, qui a l'habitude de peut-être de jouer devant ses gros stades et puis pris par l'enjeu, cette envie peut-être qu'on n'avait pas ou n'a pas su trouver l'aviron bayonnais.
Je suis pas sûr sur la taille de l'événement parce qu'il y a quand même des joueurs d'expérience à l'aviron qui ont connu des gros matchs et Lopez, il en a connu beaucoup. Il est passé à côté comme lui et tous les autres. Hein,
mais bien sûr, ouais.
Donc sur ça, non, ils ont juste passé à côté de ce match, et ce qui est dommage, ça devait être une grosse fête, elle est un peu gâchée.
Et surtout qu'on a vu aussi un RCT, là aussi presque méconnaissable, et qui a sorti le grand jeu quelque part. On a vu avec serein, on a l'impression qu'effectivement, le RCT, avec serein, c'est mauvais jeu de mots, mais c'est serein, quoi.
Oui. Mais c'est ça surtout. En fait, c'est le retour de tous ces joueurs qui fait que Toulon est en pleine possession de ses moyens, que c'est peut-être dangereux d'avoir joué ce match-là à l'extérieur, mais à Anoeta. Mais bon, après, avec le calendrier, il n'y avait pas trop le choix. Voilà. Toulon, les joueurs qui sont à Toulon, ils ont l'habitude de ces rendez-vous, et puis ils n'étaient pas dans une bonne posture, donc il faut qu'ils se remettent vite la tête à l'envers. Toulon aussi, ils sont en train de montrer que, ils vont y arriver. Et à contrario, Bayonne, qui va être encore dans le dur pendant quelques semaines.
Ben qui va être dans le dur, effectivement. Charles Olivon, lui aussi, brillé par sa classe.
Ouais, brillé par sa classe, un peu moins par le public bayonnais qui l'a sifflé d'entrée, par contre. Mais ça, c'était moins de classe. Mais oui, lui, il a été dans le rendu, dans le contenu. Mais comme toute l'équipe, tout le monde était au niveau.
Tous étaient au niveau.
Ah, de toute façon, c'était irrespirable pour l'aviron bayonnais quelque part. Cette partie, c'était cadenassé, verrouillé. On a senti un aviron bayonnais.
Les joueurs, ils tombaient pas, ils glissaient.
On se demande, même les crampons ont répondu absent.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était bon, voilà. Après je pense qu'il faut vite passer à autre chose pour l'aviron. Je suis pas sûr qu'il faille aller jouer le 8e de finale comme des fous à Édimbourg. Mais il faut se remettre vite la tête à l'envers parce que du coup ça va être difficile parce que ça va cravacher jusqu'au bout, mais pour le maintien.
Ouais, c'est assez serré. Parce que Montpellier, a perdu à la maison, heureusement, mais ça reste, il y a quoi, 5 points d'écart?
5 points, ouais.
Ça va aller assez vite. Il y a une réception en fin de saison Bordeaux à domicile qui va être compliquée, je pense, parce qu'ils auront besoin de points. Donc, le calendrier est déchargé.
T'as pas un calendrier favorable. Hein. Ça, justement, on va se pencher aussi sur ce calendrier favorable ou pas, d'ailleurs. Pas favorable du tout, même d'ici la fin de la saison. Savoir si on doit continuer à jouer à Anoeta ou pas. C'est vrai que ça fait 2 ans de suite que les Bayonnais perdent à Anoeta et qu'on entend un petit peu les supporters, ils sont pas vraiment chaud d'aller rejouer à Anoeta l'année prochaine. On verra ça dans un instant. Vous ne bougez pas. 100% rugby revient juste après ça.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Avec Benoît Caballero, avec Nathan Cardet, ce soir, nos consultants du jour, on débute ce 100% en rugby, la première demi-heure consacrée à l'aviron bayonnais qui a pris une sacrée claque du côté d'Anoeta dimanche soir avec cette défaite 46-10. La question qui va se poser forcément à un moment donné, c'est de savoir si on continue à aller jouer à Anoeta. Alors on entend du côté de l'aviron bayonnais dire que ce match, de toute façon, on l'aurait perdu, même à Dogé, face à cette équipe du RCT, c'est vrai, qui a été très très très, très 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 costaud, mais quelque part à Dogé, même quand tu es un petit peu absent, il y a quand même cette envie, ce caractère qu'on n'a pas vu du côté de l'aviron bayonnais à Anoeta. On a laissé le caractère et l'envie du côté de Dogé.
C'est difficile à dire. Après, je crois qu'ils ont fait 2 entraînements à Anoeta dans la semaine, donc ils ont eu le temps quand même de s'imprégner du contexte, du stade, du terrain. Je suis pas sûr que, honnêtement, j'en sais rien, mais je suis pas sûr que c'est le fait d'aller à Anoeta qui a fait que Bayonne n'était pas au rendez-vous sur ce match-là. Je pense que Toulon avait de grandes envies de venir gagner. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu un score aussi large à Jean Dogé, mais je suis pas sûr que ça soit le stade en lui-même qui ait fait le score de la rencontre.
Non, ça serait la très mauvaise excuse si c'est ça. Vraiment la pire erreur faite, mais je crois qu'il y a un joueur qui avait dit avant le match on prépare comme un match à l'extérieur. Vu comment ça se passe à l'extérieur depuis 2 ans, c'était peut-être pas la bonne manière de le faire. Après comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des joueurs ils ont joué des grands matchs. Enfin, c'est pas non plus, ils sont pas à l'autre bout du monde, ils ont pas fait 25 heures d'avion pour jouer ce match, et ils le jouent pas au fin fond de l'Afrique du Sud, quoi, non plus. Donc.
Ah, mais peut-être sur la préparation aussi, ce qu'on a entendu Greg Pata, qui disait, voilà, l'année dernière, j'ai peut-être pas pris la mesure de ce match à Noeta, de cet événement, cette année, je vais le préparer autrement, je l'ai préparé autrement. Bah, force est de constater que ça n'a toujours pas fonctionné.
Peut-être qu'il fallait pas, parce que l'année dernière, t'étais pas en trop mauvaise posture quand tu perdais ce match. Mais là, autant, ça te met un peu dans le pétrin, parce que là, tu vas cravacher jusqu'au bout, et c'est peut-être justement là qu'il aurait fallu le préparer de la même façon que l'année dernière. Je sais pas s'il y a des explications. Je crois que les joueurs, ils en ont pas non plus. Et ils ont juste dit qu'ils étaient dépourvus, qu'ils avaient une équipe de monstres en face.
Ah, bah, c'était des monstres en face.
Donc, que ce soit dans Jean Daugier ou à Noeta, je vois pas de différence.
On l'a même vu dans la gestuelle, hein, d'ailleurs, hein, des joueurs de l'avion bâillonné très rapidement, des signes un petit peu d'agacement,
de désespoir.
Tu sens que t'es face à un mur, en fait, que t'es dans une impasse, mais tu l'as très rapidement senti, ça, dans le match.
Rien réussi.
Et oui, tu pouvais tout tenter, tu t'en rendais que ça marcherait jamais, quoi. Juste, une équipe 100% à tous les points meilleurs, tous les joueurs dedans qui font quasiment aucune erreur technique, ils ont fait vraiment le match parfait avec l'envie, avec, la préparation. Et si Toulon avec cette équipe-là fait le match parfait, il y a pas match et c'est ce qui s'est vu, quoi.
Ouais, parce que t'as vibré, allez, peut-être 25 minutes avec l'essai d'Arthur et Ituria. Et puis derrière, t'as pas marqué, en fait, entre la 25e minute et la fin du match. Benoît, il fait j'essaie de dire,
un
peu d'espoir. Tu dis à la 25e, peut-être qu'on va aller, on va peut-être réussir à inverser un peu la vapeur. On a pris l'eau, on a quand même pris la foudre aussi.
Ah, tu sens que c'est dur, physiquement, en fait. C'est physiquement que tu t'es fait prendre. Après, derrière, pas de conquête, t'avais rien. Et quand t'as rien qui te réussit,
c'est pas gagné le match. C'est compliqué après.
Ah ouais, puis rien n'a fonctionné. Quand tu as même Camille Lopez contré par Serein avec l'essai derrière. Ça aussi, tu vois, Camille, c'est rare qu'il se fasse contrer comme ça. Là, ce soir-là, il se fait contrer en plus.
Ouais, mais c'est parce que tout n'allait pas. C'est pas la faute à Camille Lopez.
On les a jamais vus si peu en profondeur sur un coup de pied. Tous les placements, il était mauvais sur l'action, mais rien n'allait. Et c'était un peu symptomatique le Serein, il fait le bon contre, il a les bons rebonds, tout fonctionne. Et à l'inverse, tout fonctionne pas pour l'aviron.
C'est
un peu symptomatique du match.
En plus, quand tu regardes les stats, le ballon, tu l'as eu, hein, t'as pas été privé de ballon, hein, t'as 57% de possession quand même pour toi.
Tu parlais de l'essai, ils ont fait 50 ans de jeu avant de marquer, ça montre bien que
ils
l'avoir pour pas avancer.
Ils l'ont eu, mais ils n'ont pas réussi à avancer. Ils sont vraiment heurtés à un véritable mur, en tout cas, cet aviron bâillonné face à Toulon, hein, qui a donc perdu 46-10 dimanche soir à Noeta. On va faire un petit tour peut-être après des différents matchs qui sont disputés, hein, dans le top 14, parce que du coup, l'aviron bâillonné se retrouve 10e, 5 points devant Montpellier. Et puis c'est vrai que en fond de classement, c'est un petit peu dans un petit mouchoir de poche. Hein, et puis on va voir qu'il y a eu quelques belles surprises, ou surprises tout court d'ailleurs, dans ce top 14. Et puis on va jouer pour tenter de gagner votre ballon de rugby France Bleu Pays Basque. On va jouer à qui peut battre, et ça sera dans un instant.
18h-19h, 100% rugby sur France Bleu Pays Basque avec Julien Dejon.
Ah oui, 100% rugby, c'est jusqu'à 19h avec Benoît Caballero avec nous ce soir dans le studio, accompagné de Nathan Cardet pour débriefer ce match de l'aviron bâillonné, cette défaite 46-10 qui fait mal. Et cette question qu'on a forcément entendue quand on connaît des supporters bâillonnés, on a entendu cette question: est-ce qu'il faut continuer à aller à Noeta, messieurs? Benoît, peut-être. Est-ce qu'on continue à y aller ou pas? C'est vrai que là, ça fait mal. Les supporters en ont pris un petit coup sur le carafon aussi.
Oui, hein. Mais les supporters, ils vivent des choses extraordinaires, parce que l'aviron commence à avoir de l'argent. Et c'est pas en restant à Jean Daugier que l'aviron va avoir de l'argent. Bien sûr que ça a un côté, un gros côté financier. Mais c'est à cause de ça que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il peut y avoir des stars qui signent l'année prochaine. Et faire développer l'aviron. L'aviron va pas jouer le top 6 en restant à Jean Daugier ou en n'ayant pas cet attrait à l'argent, quoi.
Et pour l'instant, faut prendre le risque d'y aller, tant pis. On sacrifie peut-être un petit peu, mais c'est aussi fait partie de la construction du club quelque part.
Mais tout à fait. Est-ce qu'on peut-être pas l'envisager un peu plus tôt dans la saison, dans les beaux jours, et puis avec un enjeu un peu moindre pour l'aviron, qui pourrait éventuellement, s'il y a des fêtes, se rattraper à l'extérieur ou comme ça.
D'enjeu, je pense que quand ils le programment, ils se voyaient déjà jouer beaucoup plus le top 6, donc ils se sont dit que ça allait être un 8e de finale.
Oui, mais c'est possible.
C'est peut-être comme ça qu'ils l'ont vu, l'enjeu. Après, je rejoins sur l'idée d'argent. Tout le monde est content de voir signer des gros noms ces dernières semaines. Comment on les paye? Si ça rapporte, on parle autour d'un million d'euros ou des montants comme ça, c'est sûr que dans le budget, ils sont hyper importants pour continuer à payer ces stars. Donc, après, je pense que tout le monde, jusqu'à 21h, tout le monde était content du déplacement, tout le monde avait passé un très bon dimanche à Noeta. Donc bon, après le sportif, il y a le...
Oui, après c'est la frustration de cette défaite, en plus qui est très lourde encore. Tu perdrais d'un point ou deux, alors bon, on aurait toujours...
Je la ressens pas la frustration. Voilà,
non, parce que toi tu es supporter du BO, mais...
Il y a peut-être des clubs de supporters qui sont pas satisfaits parce que c'est à nos états, mais il faut dire quand même que l'Aviron a réuni à deux fois presque 80 000 personnes pour aller voir Bayonne. C'est quand même beau ce qu'ils font. C'est du business, mais bon, s'il y a tout ça derrière, il faut être content quand même quand t'es supporter de l'Aviron.
C'est ça, faudrait peut-être essayer de jouer plus tôt dans la saison. Tu te dis comme ça, même si tu te ramasses, t'as de quoi rebondir derrière. T'as de quoi rebondir, t'as de quoi digérer aussi, parce que là finalement, t'as pas le temps de digestion finalement. Il te reste que 6 matchs, t'es dans la course, et là t'es dans la course au maintien en plus. C'est ça aussi qui...
Et en fait, tu passais un cap où tu jouais à la limite les 6 premiers et t'étais presque sauvé, ou alors c'était le cataclysme, ce qui s'est passé.
Oui, forcément que le discours n'aurait pas été le même si tu gagnais ce match face au RCT à Noeta. Mais là, le pire, c'est que c'est la plus grosse défaite à domicile quelque part de la saison, parce que là, ta plus grosse défaite, c'est 37-0, mais c'est à Castres. Là, ce match, alors même si c'est pas à Dogé, ça compte comme un match à la maison.
Le classement et britannique 46-10. De Yann Blanchard, ça compte un tout. Parce que là, il s'est descendu pour le coup.
Oui, le classement britannique Yann Blanchard, pour le coup, en prend un sacré coup là aussi derrière la tête. Parce que bon, aujourd'hui, tu regardes donc vers le bas, t'es dixième, t'as que 5 points d'avance sur Montpellier. Et quand tu vois le calendrier derrière, tu vas au Stade Français, tu reçois l'UBB.
Stade Français qui a gagné à Montpellier.
Ouais, exactement, qui a gagné à Montpellier. Tu reçois l'UBB et qui va jouer aussi crânement sa chance pour le top 6. Après, on verra ce que vont faire avec la Challenge Cup, avec la Champions Cup, puisque l'UBB est allé perdre aussi à Lyon, mais en envoyant l'équipe 2. Tu vas au Racing, tu reçois Perpignan qui est en pleine bourre. Donc si toi t'es en plein doute, alors tu perdras pas contre Perpignan, je pense à Jean Daugé.
Ouais, mais attention, ils peuvent arriver.
Mais ils peuvent arriver avec.
Ils peuvent arriver avec 1000 fous aussi en tribune. Et
c'est ça. Et donc t'es pas à l'abri avec 1000 fous furieux qui déboulent. Tu vas à Houillot et tu reçois Castres. Donc la fin de championnat va être quand même très très stressante quelque part pour l'Aviron là.
Oui, bon, Perpignan, ils vont jouer la même chose que Bayonne. Au Yona, ils vont, je pense, bien vouloir finir, donc ça va être compliqué d'aller chez eux. Castres, on sait que c'est toujours compliqué de jouer contre Castres. Stade Français qui est en pleine bourre, et je pense que ils vont pas être loin d'être champions cette année, encore une fois. Et après, il restait... L'UBB va jouer toutes ses chances aussi pour aller dans le top 6, voire top 2. Donc
c'est ça.
Forcément, oui, ça va faire mal.
Ça va faire mal. Quand tu regardes, donc pour vous donner les scores, hein, le Stade Français qui est allé battre Montpellier dans l'Hérault 12-10. Le Racing 92 qui a battu Clermont 26-10. Là aussi, hein, Clermont prétendant, c'est un concurrent direct au maintien. Hein, Clermont, cette année, Clermont, il joue aussi le maintien. La Rochelle a fait le job face à Oyonnax 40-21. Perpignan qui s'est amusé, Aimé Gérald qui a écrasé Castres 43-12 avec 4 essais notamment marqués en 10 minutes en début de seconde période. T'as Toulouse qui a eu très chaud aussi. Oui, c'est pas passé loin pour les Palois qui ont fait un gros match aussi à Toulouse, 31-29. Lyon, je le disais, qui a battu l'UBB, mais l'UBB qui s'est déplacé avec l'équipe BIS pour préparer son 8e de finale de Champions Cup. Et puis donc ce Bayonne-Toulon, donc c'est assez chaud pour en fin de tableau, en fin de classement. Parce que si je regarde, donc Perpignan 9e, 44 points, Bayonne 43, Clermont 42, Lyon 42, Montpellier 38. Franchement, je suis pas Madame Irma, je sais pas qui jouera les barrages à la fin de la saison. Hein.
Le seul avantage, c'est que finalement, tes concurrents, un voire deux concurrents directs, tu les joues à la maison. On parle de Perpignan, mais il y a Castres qui va pas bien du tout et qui enchaîne, je crois, 4 ou 5 défaites consécutives et qui est un ou deux points devant Bayonne. Donc, ça, finalement, ils seront peut-être pas sauvés non plus la dernière journée. C'est le seul avantage, c'est que les deux équipes qu'il faudra absolument battre, vaut mieux que ça soit Jean Daugé que Aimé Giral, ça c'est sûr.
Bon, on va passer aux infos du jour.
100% rugby, les infos du jour.
On parlait des furieux sans Kéor, tiens, justement, parce que l'info du jour, c'est qu'on sait que les Catalans se déplacent souvent nombreux pour suivre les matchs de l'USAP. Cela se démontre un peu plus aujourd'hui, que les sans Kéor remontent un petit peu au tableau. Ils étaient 600 à avoir fait le déplacement jusqu'à Oyonnax, et à la fin du mois, ils se rendent à Montpellier. C'est à 1h20 de route, à peu près, de Perpignan à Montpellier. Et évidemment, les supporters ont ciblé cette rencontre. Près de 2500 ont déjà acheté leur billet pour le match, si bien que le MHR a dû suspendre la billetterie pour ne pas se retrouver à jouer à l'extérieur dans son propre stade. aujourd'hui, c'est plus possible d'acheter une place pour ce match. Il faut rappeler que le Jegel Stadium est l'une des plus mauvais affluents du top 14. Et sur la billetterie, on a vu apparaître maintenant un onglet « Achat réservé aux abonnés ». De toutes les rencontres dispo sur le site du MHR, c'est la seule réservée aux abonnés. C'est les supporters catalans, eux, ils vont aller jusqu'au bout un peu partout, c'est certain.
Ils sont assez fous. C'est pour moi la meilleure ambiance quasiment de top 14 dans ce stade. Et c'est vrai que 1h20, et ça va être le match capital. Hein. Il y a Montpellier, s'ils perdent celui-là à la maison, ça va commencer à être très compliqué de revenir au score. Et ben, dans les deux sens, il est important. Donc oui, les Perpignanais, 1h20 de route, un samedi à 17h.
C'est ça.
Bon, il y a tout pour faire un gros déplacement, mais je pense ils ont un peu peur à Montpellier là.
C'est ça.
Dans l'organisation.
C'est ça parce que, y a eu visiblement une réunion ce matin parce qu'on ne sait pas trop comment réagir finalement face à l'afflux de joueurs extérieurs. Donc il y a eu une réunion de crise ce matin pour avoir un petit peu la politique à adapter ces prochaines heures. Et pour l'instant, on ne sait pas trop. Et quelque part, on se dit, est-ce qu'on n'a pas des leçons à prendre aussi du MHA? Parce que si jamais ils décident à débouler, pareil, à 2000 ou 1000 à Bayonne, peut-être falloir aussi verrouiller un peu la billetterie.
Bon, à Bayonne, ça va être compliqué parce que...
Oui, de toute façon, déjà, il y a plus d'abonnés, forcément.
Oui, il y a plus d'abonnés. Je crois qu'ils n'ont que 700 places, les visiteurs. Mais bon, le MHR, on sait qu'il n'y a jamais eu trop de public. L'ambiance, il n'y en a pas. Donc bon, mais tant mieux. Hein, tant mieux pour le MHR si Perpignan se...
Bah, au moins, ils vont remplir la billetterie, ça leur fera des sous.
Mais voilà, après, les places sèches, ça ne rapporte jamais. C'est pas ce qui rapporte le plus, mais vaut mieux gagner le match.
À Perpignan, ils ont passé à la buvette aussi. Hein. T'inquiète pas pour ça. Il y aura du monde à la buvette, quoi qu'il arrive. L'autre info du jour, on parlait de Sam Whitlock la semaine dernière. La question se posait de savoir si le All Black allait continuer à Pau et activer son année de contrat en option ou s'il allait répondre à l'appel du pied du sélectionneur néo-Z qui aurait bien aimé le récupérer pour encadrer la jeune génération. Sam Whitlock, hein, c'est à 35 ans. Il détient d'ailleurs le record de sélection avec les Blacks. Hein, 153 sélections au compteur et 2 Coupes du Monde posées sur la cheminée. Mais finalement, coup de théâtre, le joueur a décidé qu'il ne porterait ni le maillot de Pau, ni celui des Blacks. La saison prochaine, le géant néo-Z a tout simplement décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison. Il l'a annoncé à ses coéquipiers ce matin. Le club l'a annoncé sur ses réseaux en début d'après-midi. Donc Sam Whitlock a décidé de quitter le pré sans faire de la saison de trop, qui peut parfois faire peur aussi à certains joueurs, cette saison de trop.
Bah, après, c'est chacun son ressenti, oui. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce que physiquement il est bien? Mentalement il est bien? Je pense qu'il vaut mieux arrêter sur une belle note que sur une mauvaise note ou sur une blessure. Qui choisit sa sortie, c'est plutôt bien.
Ouais, mais c'est surprenant quand même, Nathan, parce que bon, il est quand même dans le coup encore, hein, Whitlock. Hein,
Comme il vient de dire, c'est juste son ressenti propre. Hein, s'il sent qu'il est au bord de la limite, bon, il a tellement une belle carrière, on va dire qu'on va profiter les 6 derniers matchs, je crois, plutôt.
Voilà, on va profiter en tout cas de le voir une dernière fois dans ce top 14. En tout cas, quelque chose me dit, je sais pas, hein, qu'on le verra tout de même s'occuper un jour des jeunes, des Blacks sans les crampons, c'est vrai, mais peut-être dans le staff pour cette légende des All Blacks. On va jouer. On a un petit ballon, un joli ballon, pas un petit, un vrai, un gros ballon de rugby France Bleu Pays Basque à vous offrir au 05 59 59 17 17. Et vous savez quoi? Vous allez jouer soit avec Nathan Cardet, soit avec Benoît Caballero. Et s'ils sont gentils, ils vous le signeront, hein, ce ballon.
Allez.
Je signerai la valeur.
Il aura de la valeur. Bah, vous imaginez Benoît Caballero et Nathan Cardet posés comme ça dans votre salon. Et si vous êtes un peu patient, on mettra celle de Yann Blanchard aussi, qui reviendra nous voir forcément dès demain.
Là, tu viens de tuer le jeu, là.
Ah, j'ai tué le game. Yann Blanchard. Après, la signature de Yann Blanchard n'est pas obligatoire. Si vous ne la voulez pas.
C'est un punching ball qu'il faut. C'est même ballon avec Yann Blanchard.
Yann, on t'embrasse, bien sûr. On pense à toi. On espère te voir dès demain ici dans cette antenne de France Bleu Pays Basque. En tout cas, pour jouer avec nous, qui peut battre 05 59 59 17 17. Yeah. C'est l'heure de jouer, c'est ça? On va jouer, hein, 05 59 59 17 17 pour tenter de gagner ce joli ballon France Bleu Pays Basque, un ballon de rugby, un vrai ballon de rugby, un gros ballon de rugby que Jonathan va tenter de décrocher. Bonjour ce Jonathan.
Bonjour.
À Saint-Jean-de-Luz.
Oui, exactement.
On me glisse dans l'oreillette que t'es pote avec Nathan.
Voilà, un deuxième héritier comme Montignac.
Voilà, et paf, un de plus sur l'antenne. Il n'y a que du BO ce soir, hein, sur l'antenne de France Bleu Pays Basque. Jonathan, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ton pote ou tu veux le détruire?
Je le détruis.
Ça va être compliqué, c'est pas sûr.
Sympa entre potes. C'est bon esprit.
Je préfère les arbitres.
Ouais. Ah, c'est gentil.
Donc du coup, tu vas jouer avec Benoît, Jonathan.
Exactement.
Bon, alors on va demander carrément à Renaud de couper le micro de Nathan, comme ça au moins il n'y aura pas de...
Oh, c'est habituel, hein.
Ouais. Allez, la première question, on va jouer rapidement. Ce week-end, Bayonne a affronté Toulon. Mais au fait, Toulon, c'est dans quel département?
Le Var.
Oh là, ça dégueule.
Nathan, il n'a pas le temps. Nathan, il n'a pas le temps d'attendre. Il est pressé. Il a l'apéro qui attend ensuite. Donc, un point pour Nathan.
Bon. Il faut laisser finir la question. Hein.
Oui, bah,
on fini, hein. Oui, ça a été un peu vite quand même. Là.
Bon, allez, ok. Aujourd'hui, on laisse finir la question. Parce que moi, généralement, je n'ai pas de religion pour ça. On répond quand on a la réponse. Hein, mais bon. Benoît Caballero, c'est un arbitre. Il aime bien quand les choses sont carrées et sont droites.
Mais ça ne les applique pas tout le temps bien. Normalement.
Voilà.
Non.
Attention, on attend donc la fin de la question. Biarritz a perdu de peu à Béziers, emmené par un demi de mêlée intenable qui a marqué un triplé vendredi soir.
Ça marque ah mais
il a fasciné la question. Oh là. Mais oui, c'est Samuel Marquez. Il prit à ses propres règles.
Ah ouais, c'est clair. Mais je l'avais tellement.
T'aurais rien dit.
Du coup, j'ai détruit Jonathan.
Du coup, t'as détruit Jonathan et t'as détruit Benoît Caballero.
Mais 2-0.
Bah oui.
J'avais la réponse.
On est pas
prendre
du chaud, ça va.
Ah bah oui, mais t'avais. Avant l'heure, c'est pas l'heure.
Ouais, c'est pas fou.
Oui, oui. La troisième question pour l'honneur.
Allez.
Le week-end prochain, Bayonne va jouer à Édimbourg. Mais comment s'appelle le stade d'Édimbourg, justement? Bah si, c'est là où joue l'Écosse, hein.
Murrayfield ?
Ben oui.
Ah ben voilà. 3-0. Allez,
3-0.
Exceptionnel, bravo.
Voilà. Bon ben Jonathan, t'étais venu pour détruire ton pote qui t'a lamentablement détruit.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même plus intéressant de le battre que Yann Blagerancher.
Voilà. Jonathan, bon tu sais quoi, je te l'offre quand même le ballon.
Allez, nickel, merci beaucoup.
Voilà, comme ça tu pourras faire des passes avec Nathan.
Avec la signature de Blanchard, si c'est possible.
Mais écoute, ça marche. Dès demain, on te le met de côté comme ça, le ballon. Et demain, Yann, promis, on lui fera signer, même sous la torture.
Très bien, merci beaucoup.
À très bientôt, Jonathan.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Allez, adieu.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Et après Bayonne, le Biarritz Olympique, hein, le BO qui a réussi à aller arracher le bonus défensif en toute fin de rencontre chez le co-leader Biterrois. Une belle rencontre pour le BO, qui était plutôt séduisant hein, dans le jeu, mais qui reste quand même collé dans le fond du tableau avec une 14e place, 3 points devant Montauban, 14e, 9 points devant la Lanterne Rouge Rouen. En tout cas, ce match a tenu toutes ses promesses avec pas moins de 7 essais inscrits, un festival offensif où les deux équipes se sont rendues bah, coup pour coup. Hein. D'ailleurs, ce sont les Biarrois qui ont ouvert la marque dès la 7e minute avec l'essai de Pierre Pagès, bien servi par Billy Searle et malgré la défaite, cette équipe vous a fait plaisir, messieurs. Nathan, peut-être pour commencer, toi qui es supporter du BO justement.
Ouais, c'est un point important. Plaisir dans le jeu, dans le contenu offensif, oui, était bon. Après, il y a eu des errances défensives et sur certains points, notamment dans la conquête et dans les rucks. Après, avant le match, on aurait dit en un point à Béziers, on aurait signé. Mais je pense que ce Béziers-là était prenable ce jour-là. Je l'ai trouvé plus faible que les dernières semaines, notamment défensivement, même si en attaque, ça fonctionne très bien. Mais je pense qu'on a offert des points. Il y a, oui, ce côté très positif de prendre un point à l'extérieur. Tous les points à l'extérieur vont compter presque double à ce moment du championnat. Mais il y a presque une part de regret de... Oui, il y avait peut-être de la place d'aller en prendre 4.
Benoît ?
Je le rejoins assez. En fait, tu te dis d'où on vient, c'est bien d'avoir un point. Mais franchement, vu l'équipe qu'il y a sur le papier, ben on pouvait ramener 4 points. Et vu l'équipe, ce qu'elle a démontré, parce que offensivement, ben là, ça fait du bien. On retrouve des joueurs. Alors c'est bizarre, ils jouent le maintien, mais ils sont plutôt libérés dans leurs choix. Ça tente des choses. Il y a un superbe essai de Farisco après un coup de pied de Cordin, je crois.
C'est Farisco qui fait le coup de pied.
Non, il le récupère. Bon, bref. C'est plein de...
c'est un détail.
Ouais. Non, mais c'est juste que ça joue, c'est beaucoup plus collectif. Alors bon, t'as des erreurs défensives, ça c'est sûr, mais bon. Tu peux vite le régler. Mais c'est vraiment dommage de voir l'équipe de Biarritz comme elle est aujourd'hui et comme elle a été il y a 3 mois, c'est un peu du gâchis, je trouve.
Ouais. Si tu te dis, si elle avait joué comme ça un petit peu toute la saison, finalement, on n'en serait peut-être pas là.
Non, je pense que c'est tout le contraire parce que l'équipe, c'est toujours dite comme une équipe très joueuse, très ballon en main, même en début de saison. Offensivement, ça a plutôt, bon, ça n'a pas toujours fonctionné, mais ça.
On n'a pas vu tous les mêmes matchs, alors, hein.
Non. mais elle s'est vendue comme plutôt une équipe offensive et plutôt une recherche d'efficacité ballon en main, et où ça a été dur, ça a été devant. Moi, je trouve, durant cette période difficile, c'est plutôt
dans l'envie. Oui, mais c'est pas parce que t'essayes de faire du jeu que tu arrives les premiers.
Mais ça, c'est autre chose. Oui, mais pourquoi je peux finir?
Vas-y.
Et on a une... La météo va un peu mieux sur les terrains. On arrive au printemps. Je pense qu'il y a c'est quand même une période de l'année qui colle plus au style de jeu que veut mettre les coachs. Là, après, ces dernières... Enfin, il y a quelques mois, quand Manix dit, on est, ou je sais plus qui l'avait dit, on est surpris du club en face, de l'envie qu'ils ont mis devant. Bah ouais, là, ils étaient à côté de la plaque totalement. Là, maintenant, on arrive, oui, il va commencer à faire beau, les terrains vont être un peu plus secs, et il y a quand même une ligne d'arrière qui peut très bien fonctionner. On l'a vu, comme on l'a dit, il y a des beaux essais derrière. On l'avait déjà vu à des moments en début de saison, très peu, mais je pense que non, au contraire, ça colle plus au style de jeu de l'équipe. La période de l'année colle plus au style de jeu de l'équipe.
Oui, Biarritz bourgeonne avec le printemps, c'est ça?
Exactement.
D'accord, un peu comme ton t-shirt.
Exactement.
Rempli de fleurs. Tu voulais lui répondre, du coup, Benoît?
Ben, je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, c'est ce qu'on reprochait, qu'il n'y avait pas de leader, qu'il n'y avait pas de collectif. Et je trouve que Manix à ramener tout ça, et que effectivement offensivement t'es pas bon si t'as pas de collectif. Donc tu as beau essayer de vouloir faire tout le jeu possible, si tu arrives pas à te retrouver, y a pas de jeu, c'est nul quoi.
J'ai pas dit qu'ils étaient bons à le faire, j'ai dit que c'était plutôt la volonté.
Ah mais la volonté, mais tous les clubs de rugby veulent jouer, à part Rios qui dit qu'il s'en fiche comment il veut gagner lui, mais tous les clubs
des possessions chères à Blanchard.
Mais non, bien évidemment qu'ils voulaient, ils ont toujours voulu jouer, mais là on retrouve un collectif, on retrouve plutôt des joueurs en confiance, alors qui joue le maintien toujours, et c'est assez bizarre, mais tant mieux que ça sourisse comme ça.
Est-ce qu'il y a le discours aussi il y a quelques semaines, savoir peut-être que le club revendu, moi, pas revendu, que etc. Savoir un peu plus où tu vas, où tu vas pas. Enfin, je sais pas, hein, mais
je suis sûr qu'il y a un regain d'envie quand même depuis que le président a annoncé son vrai faux, on saura jamais, vrai faux départ aux joueurs. Je pense que oui, l'envie et la motivation, elle est toute autre, et elle est retrouvée. Je pense que ça leur donne beaucoup plus d'envie.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
100% rugby jusqu'à 19h avec Benoît Caballero, avec Nathan Cardet ce soir avec nous dans les studios de France Bleu Pays Basque. Et on revient donc sur ce match du BO. Le joli point défensif, hein, ramené de Béziers, parce qu'on peut le dire, c'est un joli point défensif ramené de Béziers, 34-31. Un point qu'ils sont allés chercher dans les toutes dernières minutes de jeu, alors qu'ils étaient réduits à 14 d'ailleurs. On l'a vu aussi dans l'envie et dans le caractère. Ils ont réussi à aller chercher ce point bonus défensif qui peut-être n'aurait pas été marqué il y a quelques semaines en arrière, Nathan.
Non, c'est ça. L'envie qu'ils ont mis en fin de match, elle a tellement manqué sur les derniers mois. Surtout un mois, il y avait presque même l'envie, et je crois qu'il reste 2-3 minutes après l'essai, même dans l'engagement qu'ils mettent sur le retour, c'est presque l'envie d'aller en chercher encore plus, alors qu'on aurait pu voir une équipe qui, à 2 minutes d'affaire, enterre le ballon. Non, il y avait cette volonté vraiment de jouer, d'aller chercher ses points, et dans l'envie, il est largement mérité ce point.
C'est ça. Deux cartons jaunes a quand même pris durant ce match. Le premier, on l'a pas tout de suite vu, en tout cas à l'image. Après, au ralenti, on on voit bien que c'est ce qui amène cette pénalité aussi. C'est ce qui l'a remis un peu dans le match aussi, Béziers.
J'ai peut-être jamais été autant d'accord avec un arbitre sur cette décision, mais oui, il y a un mol qui avec un joueur qui a au moment d'aplatir en dessous, mais quand on le voit par où il arrive, c'est par le camp adverse, donc c'était mérité. Mais
ouais, et double peine parce que tu mènes 7-0 et puis derrière tu prends le carton jaune et les 7 pénalités, et c'est ce qui te ramène parce qu'il ramène Béziers aussi au tout début de rencontre.
Mais un arbitre parlera mieux que moi, mais bon,
il a pas vu le match.
Il va aller mieux faire la faute, il fait la faute, c'est double peine, mais
non, mais concrètement, de ce qu'on disait, si que ça soit une la première faute ou la cinquième faute, si c'est une faute cynique proche de la ligne qui empêche un essai, quoi qu'il arrive, il y aura la double peine. Sauf sur mêlée où on met pas tout le temps un carton jaune sur un essai de pénalité. Mais sinon, sur tous les essais de pénalité, il y aura un carton jaune derrière. Donc oui, ça les met dans le mal. C'est parce que tu te retrouves à 14 et en plus, tu prends des points inutilement, quoi.
C'est ça. Et puis ce match est joué aussi sur quelques détails aussi. Quand tu vois les deux touches perdues, la 64e, la 69e, t'as des petits détails comme ça qui font que t'auras peut-être pas avoir des regrets, mais il y a des choses qui ont bien marché. Puis il y a des petits détails comme ça qui font que bon bah.
Ouais, il y a quand même sur certains points la conquête qui pêche en mêlée. Je pense que El Fakir, je sais pas ce qu'il fait encore là, mais il est tellement pas au niveau. Pour plein de raisons, il ne devrait pas être là. On passera ce sujet, mais il fait tellement. Il fait un en avant tout seul bête qui amène un essai. Il y a plusieurs fautes techniques comme ça bête qui font, cette différence de 4 points. Et ce qu'on disait en début de sujet, c'est qu'on presque, il y a presque ce regret de pas être allé en chercher 4 points parce qu'il y avait la place.
Ouais. En tout cas, Béziers porté par un seul joueur pratiquement. On a vu que lui, hein, Samuel Marquez.
Bah depuis le début de la saison. Ah ouais, non, mais on fait qu'en parler.
Mais là, pour le coup, on a pour ceux qui découvrent ce joueur, on a vu que lui. Vendredi soir.
Quand même. Ça fait quelques années qu'il est là.
Mais pour ceux qui vont là regarder le match, les supporters du BO qui connaissaient pas forcément, parce qu'on en a parlé beaucoup la semaine dernière, et pour ceux qui l'ont vu, on l'a bien vu. Hein.
Il était omniprésent, il a fait tout le temps les bons choix. Il est, on en parlait en off, mais il y a un essai, il est à la construction, il est à la finition, il était là, tout le temps bien placé. Il a porté l'équipe, parce que, mais même si je trouve que globalement ils ont pas été si mauvais que ça, mais enfin c'est le meilleur match. Mais oui, lui, ben c'est sûr, quand tu marques 3 essais sur le papier, t'as porté l'équipe.
Ça faisait presque rire Manix, parce que Manix le connaît bien, Samuel Marquez. Il avait prévenu, attention les gars, le petit Marquez, ça va être un foufou, il va falloir le canaliser. Et puis ben il a eu raison, et on n'a pas réussi finalement à le canaliser quelque part.
Ouais, mais c'est vrai qu'il fait la pluie et le beau temps. On a vu il y a deux matchs à la maison, ou un match à la maison, où il n'avait pas joué. Et alors là, on n'avait pas reconnu Béziers du tout. Devant, ils étaient perdus. Derrière, il n'y avait pas de jeu. Et ils ont perdu, je crois, d'ailleurs, à la maison. Et c'est vrai que quand il revient, ça, il y a une espèce de confiance. En off, on disait, c'était peut-être comme Lopez l'année dernière à l'Aviron. Simplement que le fait qu'il soit sur le terrain apporte une confiance énorme à tous les joueurs.
Allez, puis pour vous rappeler les scores de cette journée de Pro D2, la 24e, le Stade Montois et Brive se sont quittés dos à dos, 22 partout. Provence est allé gagner à Aurillac 24-20. Aurillac, notre prochain adversaire d'ailleurs pour le Biarritz Olympique le week-end prochain, ça sera ce vendredi soir. Valence, Romans a battu Nevers 15-13. Victoire également de Grenoble face à Angoulême 21-18. Et la victoire de Dax à Montauban, qui fait une très belle saison d'ailleurs, Dax cette année, incroyable, qui a battu Montauban 33-29. Agen a battu Rouen sur le fil, la Lanterne Rouge a failli passer devant, 24-23 pour Agen. Puis Van a battu Colomiers 34-31. Là aussi, Van a senti un petit peu le vent du boulet. Nathan, merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt sur France Bleu Pays Basque.
Avec plaisir.
Et Benoît Caballero, à la semaine prochaine.
À mardi.
Et 100% rugby revient dès demain avec un 100% rugby amateur.